culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce culte espoir. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre et je suis accompagnée de deux chroniqueurs, Marina et Brian. Merci à vous d'être là, comment vous allez ?
Ça va bien, je te remercie.
Ça va, un peu froid quand même.
Hein, un peu froid. Et nous sommes aussi en présence de Sully Payet, notre invité. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu as déjà participé à notre émission la semaine passée sur le thème de la prière. Comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci.
Parfait. Alors Sully Payet, tu es prof à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève en France.
Oui.
Mais avant ça, tu as aussi enseigné à Madagascar. Tu es originaire de l'île de la Réunion.
C'est ça.
Et aujourd'hui, tu vas faire un partage sur le thème « Connais-tu Anne ?». Mais tout d'abord, nous allons écouter Marina nous parler de ce que Dieu a fait dans sa semaine.
Merci Emma. Alors c'est vrai que c'est l'effervescence en ce moment. Hein. Les décors de Noël sont dans la rue depuis novembre, bientôt octobre. Les magasins se sont habillés de guirlandes, sapins et autres artifices depuis quelques semaines déjà. Les gens courent, oui, ils semblent courir plus que d'habitude. Tu m'étonnes. Entre les préparatifs des mets délicieux, les cadeaux à déposer sous le sapin, les valises à faire pour aller fêter Noël chez mamie, tout le monde s'active pour ce temps festif qui nous attend. Et de votre côté, ça s'active comment ?
Bah tranquillement, vraiment. On laisse venir.
Ok.
Tranquille.
Ouais, moi aussi.
Tranquille. Bah c'est
mais
pas mal
ça
comme
va.
Ok. Alors par ici, le programme est un petit peu différent cette année. D'abord parce que je suis maman d'un petit garçon d'un an, donc on fait les choses un tout petit peu différemment que si on était juste en couple. Et puis cette année, nous partons au soleil retrouver notre famille à l'île de la Réunion.
Sympathique.
Alors ici, c'est aussi l'effervescence, mais un petit peu différemment. Les valises, les listes de choses à faire à ne surtout pas oublier, les chocolats suisses, beaucoup beaucoup de chocolats suisses à aller acheter pour les offrir à la famille. Bref, on est bien chargé dans ces préparatifs.
Ouais,
et
ouais.
Je réalise que ça fait 8 ans. 8 ans que, il y a 8 ans, je leur présentais mon fiancé. Et cette année, je reviens avec celui qui est devenu mon mari, avec notre fils. Enfin, voilà, on change en 8 ans. 8 ans que nous n'avons pas vu cette partie de famille, ma grand-maman, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Bref, une belle brochette d'à peu près 80 personnes, hein, quand
Ouf,
même, à retrouver là-bas.
Pas mal.
C'est pas mal.
Beaucoup,
oui, oui.
Beaucoup.
Ça fait un peu retrouvailles du ciel après le retour de Jésus. Des bons repas à déguster ensemble, des partages de bouts de vie, des expériences, des moments de qualité à vivre ensemble et avec Dieu. Bref, des moments de réjouissance. Mais voilà, en 8 ans, il se passe des choses et on a majoritairement perdu le contact avec notre famille parce qu'on a beau se dire « oui, on va garder le contact », finalement, petit à petit, le temps passe, on donne un peu moins de nouvelles, on en prend moins aussi, puis finalement, on devient un peu des étrangers les uns les autres. On oublie un petit peu, perdu dans notre quotidien à 1000 à l'heure. Comment vont se passer ces retrouvailles ? Comment recréer du lien ? Et surtout, comment maintenir les liens à distance une fois qu'on sera de retour à la maison ?
C'est pas évident.
Ouais. Alors, on a l'habitude dans ma famille de prier Dieu pour demander sa protection avant nos trajets en voiture, par exemple, nos voyages, pour qu'il nous aide à arriver safe, sans encombre. En tout cas, ce projet de voyage me conduit à demander à Dieu sa présence, son soutien dans les échanges qui seront faits, qu'ils soient de qualité, une persévérance aussi dans les contacts à maintenir dans la distance une fois de retour. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu moins mon truc, donc je vais travailler là-dessus. C'est vrai qu'on se disait à l'époque rendez-vous au ciel, parce qu'on avait, on pensait que c'était peut-être plus probable de se retrouver prochainement au retour de Jésus plutôt que de se revoir vraiment. Qui sait, peut-être encore, on se donnera rendez-vous au ciel la prochaine fois.
Alors, comme promesse du jour, voici un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour les rencontrer. Cette promesse est incroyable, car elle est tellement encourageante. Ce texte nous prouve qu'on n'attend pas pour rien, car un jour, Dieu reviendra et nous serons emportés par lui pour vivre la vie éternelle.
Amen. Ben, merci Emma pour cette promesse, une promesse encourageante, un peu surréaliste parfois dans nos conceptions humaines, mais comme tu l'as dit, nous n'attendons pas pour rien. Alors auditeur, je t'invite à regarder loin devant toi, car la promesse que Dieu te donne, c'est un avenir avec lui.
Cesse d'y retourner encore et encore. De faire du passé ton enclos. Ton passé n'a pas de futur, il n'est que souvenir et non pas avenir.
Parfois, attendre, c'est dur. Il faut de la patience. Alors les gens disent de moi que je suis plutôt patient. Mais ma femme me dirait, ça dépend dans quoi. Alors, on a tous envie que les choses arrivent vite. On commande un objet à la maison aujourd'hui, on veut le voir le lendemain, on veut de la nourriture très très rapidement, car on ne peut ou on ne veut plus prendre le temps d'attendre. Internet, la rapidité de trouver l'information. Forcément, bah, la patience, l'attente, on a de plus en plus de mal. Heureusement, dans notre commande sur Internet, où on a une estimation de l'heure où on va recevoir notre colis, ou alors même dans les restaurants, il est affiché un décompte de quand ta commande sera livrée. Alors, dans la Bible, on a aussi ce genre d'estimation. En fait, ce ne sont pas vraiment des estimations, c'est plutôt des promesses, des centaines et des centaines pour nous encourager dans notre temps d'attente, dans nos souffrances, dans nos difficultés, notre espérance. Alors oui, merci Seigneur de nous avoir donné ces promesses, des promesses qui s'appliquent aussi pour toi, auditrice, auditeur. Sois béni et soutenu par ces paroles.
Tes plans pour moi sont parfaits. Le chemin devant tu connais. Et quand l'ombre se dessine, tu le sais, tu le sais. Quand je n'entends que tes silences, ta grâce affermit mon cœur. Toi mon rocher, mon espérance. Tu me tiens, tu me tiens. Oh, je lève les yeux vers le ciel. Mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant.
Auditeur, auditrice, te voici dans la chronique « Dieu agit ». Et voici un témoignage que nous aimerions te partager en lien avec le thème du jour. Alors c'est Émilie qui te partage son témoignage empreint d'authenticité et de profondeur. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter.
Je vais me présenter peut-être en commençant par dire que je vis actuellement dans le sud de la France, dans les Cévennes, et je suis responsable d'un lieu spirituel qui s'appelle les Abeillères et qui est consacré à l'accueil pour des temps de retraite spirituelle, soit pour des personnes individuelles, soit pour des groupes soit des groupes d'église en général qui viennent pour un temps de retraite. Donc ça, c'est mon ministère aujourd'hui. Et c'est le fruit aussi de tout un parcours qui a précédé. J'ai été pasteur dans une église en France. Et il y a eu des années de discernement avant d'arriver finalement dans ce ministère aux abbayères, donc dans la responsabilité spirituelle et aussi administrative de ce lieu. Je suis par ailleurs en collaboration avec Collonges, puisque il m'a été demandé par la faculté de théologie de venir enseigner un cours de master sur la vie spirituelle du pasteur, de par mon ministère actuel aux abbayères et puis aussi par d'autres engagements que je peux avoir. Je suis membre de la Fraternité spirituelle des veilleurs. Et puis aussi, parce que c'est une autre dimension de ma vie, de mon parcours théologique, puisque j'ai un parcours théologique assez rempli, où j'ai pu me spécialiser dans les langues bibliques, en hébreu, en grec, en syriaque, et puis actuellement je suis sur la toute fin de la rédaction d'une thèse de doctorat. Donc voilà, j'ai ce double parcours en même temps théologique, académique, et en même temps spirituel au travers de ce ministère qui est le mien aujourd'hui.
Merci beaucoup, Émilie. Oui, le thème de ce culte, Espoir, c'est sur Anne, qui, donc ce personnage biblique, qui a décidé de dédier sa vie à Dieu, à se consacrer au Seigneur, et à passer sa vie à le servir et l'honorer. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton propre chemin de vie, de ton partage, de tes choix ?
Alors, c'est jamais très facile de partager tout un cheminement. Et en même temps, c'est avec beaucoup de joie que je le fais, parce que c'est vraiment l'image du chemin. Il a fallu des années, en fait, pour moi, pour discerner quelle était ma place. Et puis, je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui continue toujours de se discerner. Il faut toujours rester disponible et ouvert à ce que Dieu veut faire en nous et à travers de nous. Et il y a eu un long parcours pour moi. À partir du moment où j'ai choisi de consacrer ma vie à Dieu, de se dire, ben oui, mais où, quand, comment, et en fait, beaucoup de questions ont résonné pour moi, déjà par rapport au ministère. J'ai pu exercer le ministère pastoral en paroisse, mais j'ai senti que je n'étais pas vraiment tout à fait appelée à ça. Il y a eu un fort appel aussi à consacrer vraiment ma vie à la prière, à l'étude de la Bible, et à pouvoir plonger dans une vie qui soit consacrée à ça, mais oui, mais où, comment ? Et en fait, il a fallu plus de 10 ans pour arriver à discerner que vraiment la dimension de la prière et de la lecture des Écritures, de l'étude des Écritures, était en fait l'appel principal. Alors, c'est pas ça juste pour moi, c'est pas pour me faire plaisir à moi, même si évidemment j'ai beaucoup de plaisir à vivre ça. Mais comment du coup porter du fruit et être fécond dans un ministère avec cette orientation-là qui est un peu particulière. Et c'est là où Dieu est merveilleux, parce que ça peut paraître long quand nous-mêmes on vit le parcours, mais en fait tout ça c'est tissé d'une main d'artisan, de maître. C'est que voilà, il a fallu toutes ces années de discernement pour finalement arriver aujourd'hui dans ce lieu où je vis ce ministère, où je peux pleinement développer finalement cet aspect de la prière, de la lecture des Écritures, mais aussi du coup de l'accompagnement spirituel pour toutes les personnes qui viennent. Et du coup, c'est fécond et ça porte du fruit, je crois. En tout cas, je l'entends dans ce que les gens peuvent vivre dans des moments de retraite spirituelle, qui sont des moments toujours spirituels très forts. Et en même temps, en disant ça, je pourrais me dire, ben voilà, ça y est, c'est l'aboutissement, je sais où est ma place, et puis c'est là, et puis j'en bougerai plus. Et puis en fait, non. Et ça, c'est aussi quelque chose de très beau, de pouvoir sentir qu'on recommence chaque jour. Et finalement, je sens bien cette ouverture qui continue, me dire, mais peut-être que ouais, dans 5 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, bah, Dieu va m'appeler complètement ailleurs pour un tout autre ministère, mais ce sera pas sans lien avec le passé. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, c'est tout ce qu'on vit au niveau spirituel s'emboîte, les éléments s'emboîtent les uns dans les autres, et c'est pour porter toujours plus de fruits. Donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un temps pour moi vraiment de mise à l'écart, de retrait, même après mon temps en paroisse, dans un style de vie de type monastique, où il y a eu vraiment beaucoup de place pour la prière et la lecture et l'étude des Écritures. Et puis maintenant, je me sens dans une nouvelle étape aussi de vie, et je crois que chacun, on a des étapes dans nos vies spirituelles où je me sens davantage portée vers l'extérieur et vers la mission, et comment faire fructifier tout ce que j'ai reçu en fait de la part de Dieu pendant toutes ces années-là. Et c'est vrai que le parcours de d'Anne, qui finalement reste dans le temple et puis qui se consacre à la prière et au jeûne, bien sûr, me parle. Et précisément, c'est ce que je crois que je vis en ce moment. Mais bah, le texte biblique nous le dit. Alors, ensuite, elle parlait à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, il y a cet aspect du retrait de la prière. Et puis, à un moment donné, aussi, on est appelé à parler et à porter du fruit. Et voilà, je crois qu'il faut toujours rester disponible à Dieu. Jamais croire qu'on est arrivé, finalement, dans une vocation. Où on peut être consacré, mais cette consécration, elle peut prendre vraiment des formes différentes dans une même vie. Et c'est passionnant.
Merci beaucoup.
La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus, donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jusqu'au bout,
je veux te suivre dans les bons,
les mauvais jours,
à toi pour. Jésus pour toujours, oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Merci pour ces belles musiques que tu nous as proposées, Brian. Et maintenant, la parole est à toi, Sylvie.
Merci pour l'invitation d'abord, et puis pour ce privilège de partager avec nos auditeurs ce matin la possibilité d'étudier quelque chose qui se rapporte à Noël, Marina nous a parlé de préparation parce que on veut faire quelque chose de bien en famille, quelque chose qui serait mémorable à la fois pour nous-mêmes mais surtout pour nos enfants. Et Brian, tu parlais d'espérance, parce qu'on espère à quelque chose de mieux, à un endroit, peut-être à un moment, ou à quelque chose qui pourrait nous dire « Ok, je veux échapper à ce que je vis aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de souffrances, de difficultés, la maladie, ou on vit encore dans des endroits qui sont respectables. Si on est en Ukraine ou en Afrique, ou là où les populations n'ont pas à manger, ou... ou ont des difficultés beaucoup plus amples que celles que nous vivons, on aspire tous à un moment où on peut dire j'aimerais échapper à tout ça. Et la Bible nous donne une espérance dans ce sens où elle nous prédit que Jésus va revenir. Mais revenir, ça veut dire qu'il est déjà venu. Et le fait qu'il est déjà venu a inspiré d'autres avant nous à justement à espérer en cette première venue de Jésus. Et parmi ceux qui ont espéré cette venue de Jésus, celle qui m'a frappé, c'est Anne. Anne que l'on retrouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, et que j'aimerais lire avec vous à partir du verset 36. L'évangile selon Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu, parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Si on regarde un petit peu le contexte, il faut voir un petit peu avant. Vous avez le moment où Jésus est amené au temple par son père et sa mère, Marie et Joseph. Et Siméon, un homme qui lui aussi est au temple, vient, reconnaît que Jésus est le Messie promis. Et à ce moment-là, il le manifeste haut et fort devant l'assemblée qui est là. Et Anne vient faire la même chose. Elle vient exalter Dieu pour ce cadeau qu'il fait à l'humanité dans la venue de son Messie, loin celui que Dieu va envoyer pour délivrer le monde du péché, de tout ce qui est lié au péché. Et Anne, ici, nous est mentionnée dans un petit contexte. On sait un peu qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient, son père, de quelle tribu elle venait, son âge, etc. Et il y a quelques petites choses qui m'ont interpellé là-dedans. La première chose, c'est l'état de service dans l'attente de Jésus. La première chose, c'est qu'on nous dit qu'elle a vécu auprès de son mari, 7 ans au service de son mari. Mais elle a choisi de ne plus se remarier. Pourquoi ? Parce que peut-être, il y avait peut-être des circonstances, mais en tout cas, le texte nous dit simplement... parce qu'elle a choisi d'être au service de Dieu. Elle ne quittait pas le temple, et ceci jusqu'à un âge fort avancé. 84 ans, si on connaît un peu la géographie de l'époque du temple de Jérusalem, il fallait monter les escaliers pour arriver en haut, et je ne sais pas où est-ce qu'elle habite. Est-ce qu'elle habite dans la périphérie de Jérusalem ou dans la ville de Jérusalem? 84 ans, se déplacer comme ça, ce n'est pas facile. Mais elle est au service de Dieu. Et elle était là jour et nuit. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne quittait pas le temple? Je doute, mais à mon avis, ça pourrait ici signifier le fait que prenant part au culte, nuit et jour. Donc ça veut dire qu'au moment où il y avait les sacrifices du matin et du soir, elle était tout le temps présente au temple. Matin et soir, à moins qu'elle ne quittait pas le temple à midi, pendant la journée, ça voudrait dire qu'elle était là tout le temps, en fait. Elle a donné sa vie pour Dieu. Le temple de Jérusalem, comme il se trouvait en haut du temple, elle devait se déplacer pour cela. Et on peut voir ici que quoi qu'il arrive, rien ne l'arrête, rien ne l'empêche de venir malgré son âge, malgré les difficultés, les efforts qu'elle doit fournir. Elle s'est mise au service de Dieu. Et là encore, on peut voir, elle, dans cette attente et dans cette consécration le fait qu'elle attendait aussi le Messie. Elle s'attendait à ce qu'il vienne là, parce que quand il arrive, ce n'est pas un homme adulte qui a une aura sur la société, ce n'est pas un prêtre, c'est un enfant de quelques jours. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est lui, dans tout le brouhaha de du temple, les gens qui sont en train de vendre ici, là-bas, on est en train de faire un sacrifice, l'Esprit lui dit, c'est lui, et elle a écouté le Saint-Esprit, elle reconnaît la voix du Saint-Esprit, que oui, c'est bien cet enfant, et elle le loue pour la rédemption de Jérusalem que Dieu vient d'accorder. Le deuxième point que je peux mentionner aussi ici, c'est le fait qu'elle était consacrée dans un temps où la Bible ne mentionne aucun prophète. Le dernier prophète qu'on a vécu, c'est 400 ans avant, c'est le prophète Malachie. Il n'y en a pas eu depuis. Et dans ce temps où on manque de guides spirituels parce que les prêtres du temple ne semblent pas être là comme de vrais guides spirituels, elle est prophétesse, elle s'est donnée à Dieu et elle s'est consacrée pour Dieu et pour les hommes. Pourquoi ? Pieuse, elle a pu rencontrer Jésus parce qu'elle fut au bon endroit, au bon moment. Et en tant que prophétesse, ça veut dire qu'elle savait écouter, comprendre et obéir à Dieu. Elle aurait pu dire au Seigneur, écoute, je suis fatiguée aujourd'hui, tu peux pas le faire venir demain, je ne sais pas. Mais cela n'empêche pas de dire au Seigneur, ok, c'est ta volonté, j'y vais. Elle ne sait pas quand est-ce que le Messie va venir, mais elle se consacre à cette tâche que Dieu lui donne et elle va le faire jusqu'au bout. Et qu'il vienne aujourd'hui, c'est pas grave. Je participe au service du culte du matin, au service du culte du soir et je me prépare à cette venue. Régulièrement, elle est là pour écouter si par hasard, aujourd'hui, il arrive. Et ça fait un contraste quand même assez intéressant avec ce que Anne est en train de vivre et ce que les prêtres et les lévites dans le temple sont en train d'offrir au peuple. On fait peut-être un jeûne, on fait peut-être des sacrifices, on est là pour guider spirituellement, mais indirectement, on est là aussi pour recevoir quelque chose. Elle est là que pour donner. Elle est au service de Dieu, au service des autres. Elle se consacre dans le jeûne et dans les prière. Elle prie pour qui ? Peut-être pour ses propres besoins, mais on peut aussi imaginer qu'en tant que prophétesse, elle accueillait peut-être des gens qui avaient besoin d'aide et qui étaient là pour des besoins particuliers. Elle priait probablement aussi pour ça. On peut aussi voir le fait que si elle attendait Jésus, le Messie, elle ne sait pas qu'il s'appelle Jésus, elle a véritablement aussi prier pour que cela arrive. Tu m'as dit d'attendre, je l'attends, je suis là tous les jours, Seigneur, que ton Messie vienne. Et quand on la voit dans cet état, pour être au culte, au soir et au matin, pour être dans le jeûne et dans la prière, c'est véritablement un esprit de consécration qu'on voit là. Mmh. On est nous tous pris à nos activités de tous les jours. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une fois par semaine où on va au culte. On pense que c'est important et on espère recevoir quelque chose de Dieu. Et on se consacre à ce moment-là pour ça. Mais elle le fait tous les jours.
Sans arrêt.
Sans arrêt. Et donc, c'est quelque chose qui nous montre qu'en fait, ce n'est pas simplement une fois par semaine où on doit aller à un endroit particulier rencontrer Dieu. Est-ce qu'on peut se consacrer même dans nos activités de tous les jours à cette consécration de dire au Seigneur, peu importe où tu m'envoies ou peu importe dans ce que je vais faire, j'aimerais de la même façon me consacrer comme Anne dans mes activités de tous les jours afin que je ne te mets pas juste de côté pendant 6 jours et puis un 7e jour, je prends un temps pour toi. Je te mets dans tous les aspects de ma vie où on se consacre à Dieu en dépit de ce que l'on fait en fait. Et bien sûr, c'est son espérance qui m'interpelle en troisième lieu. Quand on voit juste avant, Siméon aussi attendait la venue du Messie. Et au chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, il dit au verset 29, « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Pour Siméon, il attendait le salut. Si vous allez au verset 25, il attendait la consolation d'Israël. On a quelque chose qui... On vit un moment difficile, compliqué, mais on attend à ce que l'on soit délivré. pour elle, Anne, on a le mot rédemption ou délivrance qui est mentionné ici, comme pour dire, on n'attend pas simplement à ce que le mauvais s'en aille, le mal s'en aille, le péché s'en aille, mais on veut vivre quelque chose de grandiose. Et cela, là encore, est important de souligner. Elle attend pas simplement une consolation, mais elle attend la rédemption, la délivrance. Et ça, ce n'est qu'à travers une relation avec Dieu qu'on peut vivre ça. Quand on vit ce que l'on vit tous les jours, on peut se dire, mince, mais pourquoi ça m'arrive encore? Et puis, je perds mes clés, si ce n'est que ça. ça peut être, je tombe malade, oh, je ne peux pas aller au travail. Et là encore, si ce n'est que ça, il y a des gens qui vivent dans des moments où ils se disent, mais qu'est-ce que je vais mettre sur la table? Comment je vais aider ma famille alors que je n'ai pas les moyens de payer l'hôpital? Ou, on peut penser à l'Ukraine, tous les jours, on doit se cacher parce qu'on ne sait même pas comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on va être encore vivant ce soir? Attendre ça, c'est simplement dire au Seigneur avec tout le cœur et dire, quoi qu'il arrive, j'attends cette délivrance-là, cette rédemption qui me donnera un meilleur avenir. Mmh. Et on attend en espérant que ça vienne, et on est en état d'esprit de vivre cela. Avec bien sûr l'assurance que Dieu ne faillira pas dans sa promesse, et c'est pour cela qu'elle servait Dieu aussi fidèlement, probablement. Après avoir vu Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Et quand elle l'a rencontré, elle ne garde pas ça pour elle. Elle parle aux autres, elle témoigne aux autres. J'ai rencontré le Messie. Et un enfant, vous pouvez imaginer les interrogations que les gens peuvent avoir. Un enfant, un bébé, comment tu peux savoir que c'est le Messie? Ben, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Ça fait un peu... Non, enfin, peut-être qu'elle s'est trompée. Ben non. Mais elle n'hésite pas à témoigner. Elle est là, elle est tout simplement d'abord au service, consacrée, mais cette espérance, quand elle l'a rencontrée, ça ne peut que sortir d'elle. Ça dépasse ce qu'elle attendait, et que, en dépit que ce soit encore un enfant, et elle le vit, elle le dit. Et pour nous aujourd'hui, Anne personnifie ici, en son temps, ceux qui, comme nous, servent le Dieu vivant et vrai et attendent des cieux son Fils, Jésus, qui va revenir. Elle est un modèle pour nous qui devons vivre en ce siècle présent dans la réserve, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance de son second retour, de cette apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Quand je vis cette attente, moi, à mon tour, de ce second retour, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, moi aussi, je dois être au service. Au service, bien sûr, de Dieu, mais au service des autres, pour montrer que dans le monde que je veux vivre avec Jésus demain, eh bien, ce ne sera pas que pour moi, c'est aussi pour les autres. Je vais être consacré à Dieu parce que la consécration, elle commence dès aujourd'hui. C'est pas parce que je vais aller dans la nouvelle terre, vivre éternellement avec celui qui me sauve et qui est mon maître, que je vais attendre là-bas pour commencer à me consacrer. C'est maintenant que je vais apprendre à vivre ça. Et l'espérance, c'est parce que je vis la vie éternelle aujourd'hui. La Bible dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est donc pas quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose que je vais apprendre à vivre dès aujourd'hui. Et donc, cette attente, c'est une attente qui est pas passive, mais active, en espérant justement que quand la bienheureuse espérance va venir, promesse certaine, eh ben, on puisse en prendre part ici. Alors qu'on nous prépare en Noël, et que beaucoup vont peut-être fêter juste ça de façon simplement festive, il n'y aura probablement pas de place pour Dieu, où il y aura peut-être un petit Jésus dans une crèche de bois ou de pierre quelque part dans un coin de la salle, ou peut-être dans une église où on va aller voir. Moi, j'aurais aimé que ce Jésus-là soit dans nos vies quelque chose de beaucoup plus fondamental, de présent, et qu'on l'attende pas simplement pour un jour de l'année, mais tous les jours de notre vie, en fait. Voilà.
Je nous propose un échange avec notre chronique « Et toi, ça te parle ?» qui nous permet un petit tour de table avec nos impressions sur ce que Sully Payet nous a partagé, ce que ça a suscité en nous, ce que nous avons découvert, peut-être redécouvert. Bref, parole à vous. Qui se lance ?
Tu veux commencer ?
Bon. Moi, j'ai trouvé incroyable le fait que Anne, elle allait tous les jours au temple et elle allait nuit et jour là-bas, quoi. Et elle donnait et elle attendait rien en retour. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et qu'on doit tous apprendre de ça. Parce que pour nous, c'est difficile, je pense. Pour chacun d'entre nous, ouais.
C'est vrai.
Moi, ce que je trouve interpellant, c'est que Anne aille tous les jours au temple. Et moi, ça m'apprend quelque chose, c'est que, enfin, c'est surtout dans ce que tu as dit, Sully, c'est que à un moment donné, elle écoute, elle entend la voix du Saint-Esprit. Et je me dis que le fait qu'elle aille régulièrement aller à l'église, au temple pour prier, pour jeûner, c'est aussi une relation qu'elle tisse. Et tu disais très clairement que c'est pas juste un jour dans la semaine où on vient et puis on repart, on fait nos occupations, mais c'est d'avoir une relation avec lui. Et moi, il y a une petite comparaison qui m'est venue, c'est que quand t'as un ami qui est au téléphone au début, tu sais pas trop la voix qu'il a et tout ça, mais au fur et à mesure que tu l'appelles, que tu prends de ses nouvelles, tu reconnais tout de suite sa voix. Et en comparaison avec le lien que tu peux établir avec Dieu, je pense que c'est aussi ça qu'elle a reçu. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que peut-être elle a cette envie d'aller régulièrement tous les jours parce qu'elle se réjouit. Elle se réjouit d'être dans sa présence.
Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce que tu nous as dit aussi à un moment donné. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Puis c'est pas quelque chose de lointain, en fait, de qui nous attend demain. Mm-hmm. Tu parlais de cette relation qui commence, en fait, aujourd'hui. Alors, je crois que j'avais pas tilté, en fait, cette histoire, ce lien, en tout cas. Mais ça me parle beaucoup en lien avec ce que tu dis aussi. Comment est-ce que dans mon quotidien, je peux déjà construire cette relation? Et c'est déjà le début de cette vie éternelle avec Dieu. Je trouve ça juste fabuleux. Ça me touche pas mal. Après, dans la vie de Anne, c'est vraiment la posture du bon endroit, du bon moment, et de rester dans cette attente alors que rien ne vient tout de suite, quoi. On n'imagine pas le nombre de temps qu'elle a attendu dans ce temple, dans cette espérance, on y est nous aussi,
C'est clair.
Dans cette attente de ce retour glorieux de Jésus, on passe un quotidien où on est appelé à vivre une relation avec notre Dieu, etc. Mais de rester au bon endroit, au bon moment, là où Dieu nous a placés, et c'est là où le prophétique aussi peut parler. Je trouve ça super. Merci en tout cas, merci pour ces riches échanges. Et toi qui nous écoutes, cher auditeur, comment ce partage biblique résonne en toi ?
Maintenant, Seigneur, dans la paix, selon ta parole, car mes yeux.
Bienvenue à la chronique facultative que nous avons appelée « Investir l'attente ». Alors, Brian et moi avions envie de nous arrêter un petit peu dans cette chronique sur les temps d'attente de notre vie. Le phénomène de l'attente est parfois mal compris, mal perçu, mal accepté aussi. On a du mal à supporter l'attente, on a du mal à le vivre. On peut se sentir très souvent frustré aussi parce qu'on vit dans un monde de l'instantané. T'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, Brian.
C'est ça, l'immédiateté, le tout de suite, ou encore, là, c'est mon préféré, le sans plus attendre. Tu dois t'en rendre compte, auditeur, auditrice, que ce n'est pas toujours le cas pour notre vie. Alors, quand je me réfère à la Bible, elle regorge d'exemples de périodes d'attente ou de stand-by. Je pense notamment à David, ce petit berger qui a été oint roi alors qu'il était encore jeune. Il a fallu des années pour que ce processus de règne soit établi.
Je pense aussi à Abraham, à Sarah qui ont reçu la promesse d'une descendance et puis la grossesse tarda à arriver. Ils ont eu des dizaines d'années d'attente pour voir la réalisation de cette promesse. Je pense encore à Siméon, hein, qui était un homme de Dieu contemporain de notre Anne et qui attendait l'arrivée du Messie avec foi, avec patience. Il a eu le bonheur de rencontrer ce bébé Jésus. Quelle émotion ça a dû être après tant d'attente.
Je pense enfin au peuple d'Israël qui, après leur libération en Égypte, avait reçu de Dieu la promesse d'une terre fertile, Canaan. Et finalement, un long parcours dans le désert, un apprentissage de l'autonomie, de la confiance en Dieu avant de parvenir à destination 40 ans plus tard, ouais. Tu imagines un peu?
Je pense aussi à la naissance de Jésus, annoncée des centaines d'années plus tôt. Qu'en est-il? Dieu a-t-il pris du retard? Dieu n'est pas en retard dans son programme. Bien qu'il se situe hors de notre temps terrestre, c'est lui le maître de notre temps. Et parfois, nous ne saisissons pas toujours pour quelles raisons bien ça tarde, ça ne vient pas tout de suite. Mais Dieu a son programme, il n'est jamais en retard. Jésus est né au bon moment de l'histoire, au temps opportun.
Finalement, dans une vie, on vit beaucoup d'étapes d'attente. L'attente de la fin des études, l'attente d'une conjointe ou d'un conjoint, l'attente d'un enfant, l'attente des visites de nos proches, l'attente d'un travail, l'attente de nouvelles opportunités, l'attente d'un processus de changement qui tarde à venir.
Et on a parfois tendance à vouloir raccourcir ce temps d'attente, à optimiser le temps, le réduire à notre convenance. Mais du coup, le résultat de l'attente peut dans ce cas être transformé. Hein. Par exemple, l'attente d'un enfant, hein, des mois de grossesse, des mois d'attente. Et c'est sûr que bébé est bien mieux au chaud dans le ventre de maman que sorti précipitamment à 5 mois de grossesse, non?
C'est clair.
Et à la fin de la grossesse, moi, je me souviens à quel point j'avais vraiment envie que bébé soit là. Et sur les forums de futures mamans, je me souviens bien de certaines mamans très, très pressées qui demandaient à d'autres mamans des conseils de thé, de mixture en tout genre, de position pour provoquer plus rapidement l'arrivée de bébé. Pas facile d'attendre. L'attente fait partie d'une saison que Dieu a programmée. Ici, Dieu a prévu un plan idéal, un plan parfait, une grossesse de 9 mois avant l'arrivée d'un bébé. Tout arrive à point à qui sait attendre, dit le proverbe.
Bon, Marina, c'est bien beau tout ça, mais si nous n'avons pas de prise sur cette attente, comment pouvons-nous investir ce temps?
Alors, dans notre exemple de l'attente d'un enfant, on reste pas les bras croisés, non? On investit cette attente.
Oui, j'imagine qu'on prépare la chambre, qu'on choisit les couleurs de la déco, qu'on achète des petits habits ou du matériel.
Ouais, c'est ça. Mais pas que. On va aussi suivre un cours de préparation à la naissance. On discute avec des mamans, des futures mamans. Comme nous, on investit ce temps, on investit ces 9 mois prévus de grossesse pour nous préparer à devenir maman. C'est un processus. L'attente est un processus que je t'invite et que je m'invite à investir. Nous sommes dans cette période de l'Avent. Avant quoi ? Ben avant Noël, ce jour qui a été choisi pour nous rappeler la naissance de Jésus. L'Avent, ça vous parle dans ce studio ?
Oh oui, ça me parle bien.
Ouais, hein ? Alors pour l'occasion, j'ai décidé de nous faire une petite surprise aujourd'hui.
Ouh.
Alors, ding ding ding.
Roulement de tambour.
J'ai décidé, hop, allez-y, je suis en train de distribuer une petite boîte qui s'appelle un calendrier de l'Avent.
Super, merci beaucoup.
Vous savez, cette petite boîte en carton avec ses petites fenêtres. Alors, en général, ce qui importe, ce n'est pas le carton, hein, vous savez très bien, ni les fenêtres. Ce sont tous ces petits chocolats qui sont à l'intérieur. En général, un par jour, du 1er au 24 décembre. Bon appétit, c'est cadeau.
Donc on peut manger tous ceux qui sont déjà passés là.
Alors, je trouve génial la manière dont les enfants investissent cette attente avant Noël.
C'est vrai, on peut en voir certains qui vont fouiller dans les catalogues pour entourer, pour découper, surligner les cadeaux qu'ils aimeraient bien avoir pour cette période de fête. D'autres vont supplier les parents au réveil de prendre le petit chocolat du calendrier de l'Avent. S'il te plaît, maman, je t'en supplie.
Et puis, il y a la préparation du sapin, les décorations dans la maison, les petits biscuits confectionnés en famille, la préparation du menu de Noël, les chants de Noël, que dire encore, bah, qui s'écoutent dans la maison, dans les radios, bref, tout un tas de petits rituels qui aident les enfants et les plus grands à se préparer à ce grand jour tant attendu dans l'année, la fête de Noël. C'est ça, investir le temps d'attente. Et ça me fait réfléchir. Les adventistes que nous sommes portons un nom significatif. Nous attendons le retour de Jésus. Et là encore, Jésus n'est pas en retard pour son retour. Il viendra au bon moment choisi par Dieu. Ça peut nous rendre impatients. Mes grands-parents espèrent que Jésus reviendra de leur vivant, mes parents aussi, j'espère aussi voir le grand retour de Jésus de mes yeux. C'est une espérance qui me porte, qui nous porte tous, n'est-ce pas ?
Mais carrément, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va rester là à attendre le temps qui passe ? Il ne me semble pas qu'on reste là à attendre que Noël passe les barrières croisées, hein, n'est-ce pas ? Alors dans cette même idée, et en tant que chrétien, en attendant le retour de Jésus, comment investir ce temps ?
Alors, en tout temps, les chrétiens attendaient le retour de Jésus. Eh bien, ils ont été actifs. Ils étaient agissants. Ils ont prêché la parole de Dieu sur la surface de la terre. Ils ont partagé des valeurs bibliques autour d'eux. La générosité, l'amour inconditionnel, le soutien aux démunis, des encouragements. L'attente est un processus que je t'invite donc, que nous vous invitons à activer. En tout cas, moi, investir l'attente, ça m'aide à patienter. Ça me donne une direction, ça m'encourage à garder le cap. Ça maintient ma persévérance, mon envie de voir Jésus revenir bientôt, en son temps, à sa manière. Et en attendant, je suis en marche. Alors je vis ma foi, je travaille avec son Saint-Esprit, un caractère qui ressemble un peu plus jour après jour à celui de Jésus. Il y a du travail. J'apprends à aimer vraiment mon prochain, à vivre concrètement la parole de Dieu jusqu'à ce qu'un jour prochain, mes yeux émerveillés puissent voir contempler cette promesse attendue depuis plus de 2000 ans, Amen. Le retour en gloire de notre Seigneur Jésus.
Amen. Et toi, cher auditeur, comment pourrais-tu investir cette attente ? Alors, Sully, est-ce que tu voudrais nous joindre dans la prière ?
Oui, prions ensemble. Oh oui, tendre Père, merci pour cette promesse de pouvoir échapper à ce monde dans lequel nous vivons. Et surtout, cette promesse de nous donner un avenir et de l'espérance. Surtout, une vie éternelle qui est d'abord et avant tout non pas un endroit, un lieu ou un temps, mais une relation avec toi chaque jour et qui va aboutir dans un lieu et dans un temps qui est différent, où le mal n'existera plus. Et pour cela, tu nous invites, comme Anne, de te servir totalement, fidèlement, patiemment, de nous consacrer à toi et surtout de nous laisser diriger par toi, notre Sauveur et notre Maître. Tu sais nos aspirations, tu sais nos difficultés, mais tu sais surtout ce que tu veux faire dans nos vies. Aussi, aide-nous à nous laisser décharger sur toi. C'est en Jésus que je te prie. Amen.
Amen. Nous voilà arrivés dans la chronique Action, le moment de mettre en pratique les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Alors, on se posait la question tout à l'heure de comment investir l'attente, Brian.
Alors, dans ton message, Julie, tu nous parlais d'Anne qui priait régulièrement au temple, attendant la venue de Jésus. Alors, comment nous devons investir cette attente, ne pas rester inactif? Bon, alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment, surtout que c'est propre à tout à chacun. Alors, l'action de la semaine que je te propose, dans un premier temps, c'est d'aller consulter.
Alors, un psychologue ?
Alors, ne t'inquiète pas, ce genre de consultation est complètement gratuite et tu peux le faire n'importe où. Comme Anne qui allait régulièrement parler à Dieu dans la prière, eh ben fais de même. Consulte Dieu pour savoir dans quelle direction tu peux aller pour investir cette attente. Et puis dans un second temps, je te propose de lire un verset ou plus par jour dans un livre de la Bible. Un verset différent par jour. Tu auras peut-être encore plus de joie en découvrant un nouveau verset plein d'encouragement et de persévérance qu'en lisant l'estimation de la prochaine livraison que tu auras sur Internet. Qui sait ? Bonne expérience avec Dieu et ne doute pas une seconde que Dieu t'accompagnera pendant ces moments.
Merci Brian pour l'action que tu nous as proposée pour cette semaine. Et nous arrivons donc à la fin de ce culte espoir. Merci Marina et Brian d'avoir partagé ce moment.
Merci,
merci à notre invité Sully Payet.
Merci.
Pour ce partage sur Anne qui a donné sa vie à Dieu, qui est un modèle pour nous dans nos vies de tous les jours. Et enfin, merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté ce culte. Je te souhaite une belle semaine et te donne rendez-vous à la semaine prochaine.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.